Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
À tous, merci et bienvenue. Merci de votre présence pour cette rencontre inédite autour de Thierry Janssen. Gauthier Bernard, je suis en charge de l'Académie MEDEF, organisme de formation intégré au mouvement des entreprises de France, qui a pour vocation à transmettre les informations stratégiques qui concernent l'entreprise à toutes celles et tous ceux qui souhaitent défendre l'entrepreneuriat sur le terrain. Et récemment, grâce à Reslen Zaher, qui est fondatrice et dirigeante d'Executive Studio, on s'est dit qu'on allait aller au-delà de la transmission des informations stratégiques et de prendre le temps de marquer un temps d'arrêt et de réfléchir un peu à nos comportements et à ce que nous pouvons mettre en place pour améliorer les choses également au sein de l'entreprise. Voilà, donc je remercie Reslen pour cette idée merveilleuse et je lui passe tout de suite la parole.
Merci, merci beaucoup Gauthier, merci de cette belle introduction. Je suis vraiment très heureuse de vous proposer ce webinaire ce soir en collaboration avec l'Académie du MEDEF et autour de notre invité Thierry, Thierry Janssen. Bonsoir Thierry. Encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avant de démarrer avec toi, cher Thierry, de te présenter, je souhaitais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, peut-être me présenter en quelques mots. Je suis Reslen Zaher, coach de dirigeants, auteur, formatrice et conférencière. Ma mission chaque jour est d'être au service de la quête de sens des hommes et des entreprises à travers mes coachings, mes formations, mes tables rondes, des conférences inspirantes comme celle de ce soir. Et mon souhait le plus profond à travers toutes ces rencontres, c'est finalement d'inviter tous les décideurs d'entreprise à grandir, pour faire de leur organisation un acteur engagé au service de l'homme, de la terre et des générations futures. Car le monde a besoin de la puissance des entreprises et nous savons tous, le modèle d'entreprise hérité des dernières décennies, dicté par la performance et par le profit, est à bout de souffle. Il épuise autant les hommes que la planète. Alors, je suis convaincue et je crois que nous partageons avec Thierry cette conviction très forte que pour initier cette évolution essentielle à la survie de nos entreprises et je dirais même à notre propre survie sur cette terre, qu'il faut des hommes et des femmes capables d'écouter leur cœur et d'ouvrir de nouveaux possibles. Grâce à des partages authentiques, grâce à des échanges inspirants comme celui que nous allons vivre ensemble ce soir. Alors, je suis aussi membre du conseil d'administration du MEDEF 92, je suis membre du COMEX 40 du MEDEF et également membre de 1% pour la planète. Voilà. Alors, pour démarrer, je te présente également, cher Thierry, tu es ancien chirurgien devenu psychothérapeute. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à une approche globale de l'être humain et au développement de ce que l'on appelle la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Parmi tes ouvrages les plus célèbres, citons « Le défi positif »,« Confidence d'un homme en quête de cohérence »,« Écouter le silence à l'intérieur » et plus récemment « La posture juste ». Un magnifique ouvrage qui nous invite à trouver l'harmonie en nous, avec les autres et avec la nature. Tu es adepte de yoga, de Qigong, des thérapies énergétiques et surtout de la méditation. Tu as vécu des expériences intérieures profondes qui ont bouleversé ton existence et ton rapport au monde. Et tu as également créé en 2015 l'école de la posture juste. Nous y reviendrons dans quelques instants. Alors la posture juste, c'est le thème de notre webinaire ce soir. Donc petite précision pour nos participants avant de démarrer. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos questions sur le chat. Nous les prendrons donc au fur et à mesure. Il y a aussi en fin de session avec une petite séquence de questions-réponses. Alors première question, lorsque nous avons préparé cet échange ensemble, Thierry, tu me disais, je te cite, « Nous sommes à l'aube d'un changement de civilisation. Nous allons au-devant d'enjeux bien plus grands que nous, qui nous obligent à nous mettre au service de l'ensemble du monde. » C'est en fait le message de ton travail à travers la posture juste et de ton école à Bruxelles. Pourrais-tu nous en dire plus? Qu'est-ce que la posture juste exactement?
Ah! D'abord, bonsoir Reslaine, bonsoir Gauthier, bonsoir à tous. Ça peut paraître très prétentieux d'utiliser l'adjectif juste et une posture juste. Et en fait, je pense pas. Je pense que c'est une forme de respect vis-à-vis du vivant que de définir ce qu'est la justesse. Déjà, je fais bien la différence entre, parce que bien sûr, chacun de nous utilise les mots à sa façon, mais en ce qui me concerne, je fais vraiment la différence entre la justice et la justesse. La justice, c'est un ensemble de règles qui étaient dictées à une époque donnée pour faire fonctionner une société. Et en fait, voilà, c'est très relatif. La justice du Moyen-Âge n'est pas la même que celle que nous connaissons en 2023. Et encore en 2023, il y a plein d'endroits où la justice n'est pas la même que celle que nous connaissons en France ou en Belgique. Mais en même temps, la justesse, elle, n'est pas inventée par les hommes. C'est quelque chose qui est inhérent à l'organique, à la nature. Et c'est la capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible. Et en fait, là aussi, c'est très relatif parce que toi, moi, on ne va pas s'adapter de la même façon en fonction de nos priorités, en fonction des contingences dans lesquelles, auxquelles nous sommes confrontés. En revanche, et ça, c'est mon expérience de méditant, peut-être de mystique quelque part, mais dans le sens non pas religieux du terme, mais le mystique qui a toucher quelque chose du mystère de ce vivant, déjà comme chirurgien, je l'ai touché des doigts, mais aussi après, comme méditant, j'ai vraiment vu que le vivant, il avait une valeur absolue. Et du coup, on peut parler, je pense, d'une justesse non pas relative, mais absolue, à condition de s'adapter aux circonstances de l'existence en respectant le maximum de vie en nous et autour de nous. Et ça, c'est un défi énorme parce que, bien sûr, il y a une forme de loi du moindre mal qu'il faudra pouvoir respecter parce qu'il y a des intérêts et des besoins divergents. Mais en même temps, ce qui compte, c'est que le maximum du potentiel de vie, le maximum de vitalité soit respecté en chaque individu et pour l'ensemble. Du réseau du vivant, c'est-à-dire la nature dans laquelle nous vivons. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui nous attend si nous voulons garder une place dans le vivant en tant qu'espèce humaine.
Oui, donc je te cite, pour reprendre tes mots, la posture juste finalement est celle qui nous permet de nous adapter aux circonstances de l'existence en respectant et en favorisant le maximum de vie en nous et autour de nous. Et face finalement aux différentes crises qui nous attendent, je te cite à nouveau, tu nous disais lors de la préparation que nous allons devoir faire preuve de justesse et donc de grandeur et de courage. Seule une posture véritablement juste permettra d'aller au-delà de notre ego et de ses névroses. Alors, pourquoi et comment cette posture juste finalement nous permet, telle comme tu le dis, d'aller au-delà de notre ego et de ses névroses concrètement?
D'abord, je voudrais dire à Reslaine que ça m'est venu en t'écoutant,
Oui.
répondre à une question comme celle-là est beaucoup plus facile aujourd'hui
Oui.
qu'il y a encore 2 ans. Parce que j'ai l'impression qu'en 2 ans, il n'y a plus personne qui ose dire qu'il n'y a pas un changement qui est en cours. Il n'y a plus personne qui ose dire que tout va bien aller absolument et que tout est prévisible et qu'on peut planifier à 10 ans. Non, on est rentré dans la réalité de l'incertitude. Et donc là, ce que je vais dire, je pense, est beaucoup plus audible parce que ça répond justement à cette incertitude. Après, à ta question, il y a deux choses que je pourrais amener. La première, ça serait de parler de cette posture juste, de la manière dont je propose de la regarder en fonction de nos névroses, de notre personnalité, qui crée un monde assez souffrant, un monde en tension, un monde en guerre. Et il n'y a pas que des guerres chaudes, hein, il y a des guerres froides aussi. Et puis, ça nécessite, pour bien comprendre ce que je veux dire là, de se rappeler qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de manifestation qui ne dépendent pas de nous, de notre personnalité, de ce que nous sommes, des intentions qui nous habitent. Or, si on a un petit peu d'honnêteté avec soi, il faut bien reconnaître que notre personnalité, elle est constituée de traits de caractère, de traits de personnalité qui ont une première fonction, c'est de nous protéger, de nous éviter de vivre ce qui nous fait peur. Et j'ai beaucoup de respect pour un homme qui s'appelait Wilhelm Reich, qui était un disciple de Freud, mais qui a voulu aller plus loin que ce que Freud proposait dans son analyse intellectuelle. Il voulait vraiment rattacher ça au vécu dans le corps, à l'énergie. Et donc, Wilhelm Reich est à l'origine de tout ce qu'on a appelé le mouvement des thérapies psychocorporelles, qui n'a pas été très popularisé en France, parce que la psychanalyse est restée longtemps très puissante, le mental est resté très puissant, mais aux États-Unis, en Amérique latine, toutes ces approches étaient beaucoup plus ouvertes. Et il nous apprend que finalement, notre personnalité est le résultat d'au moins cinq grandes peurs. La première étant la peur du contact. C'est la première peur que nous avons tous eue, déjà en respirant l'air qui nous a brûlé les poumons au moment de la naissance. Ce premier contact est déjà souffrance, et donc il y a une première réaction de protection, de défense qui va s'enclencher. Elle est dans notre cerveau reptilien. Nous naissons avec ces programmes, parce qu'ils sont là, ce sont des programmes de survie qui sont là depuis des millénaires. Mais la première défense que nous mettons en place, c'est le retrait. C'est la déconnexion, que certains vont appeler la fuite, mais que je préfère appeler le retrait parce que on n'a pas forcément des jambes pour s'enfuir quand on est un bébé, mais se déconnecter, on peut faire. Et on se réendort très régulièrement face à cet afflux d'informations qui est trop pour nous, trop de contact. Après, la deuxième grande peur que nous avons, c'est suite à la coupure du cordon ombilical, nous ressentons une hypoglycémie, un creux dans l'estomac, nous avons une impression de nous effondrer. L'enfant n'analyse pas ça, mais il ressent le danger, il exprime une émotion, il pleure, il reçoit le biberon, et progressivement, il va apprendre à essayer d'obtenir du monde extérieur de quoi se remplir, parce qu'il a cette deuxième grande peur décrite par Reich, qui est la peur de la perte du lien. Alors on l'appelle la peur de l'abandon bien souvent, mais non, c'est pas forcément un abandon, mais il y a des pertes de lien. Les autres ne nous ont pas forcément abandonnés pour autant. Et cette peur-là fait que nous avons tendance à nous effondrer, à rechercher toujours un contact, à nous remplir depuis l'extérieur, à faire fusion avec l'autre, ou éventuellement à faire croire à l'autre qu'on n'a pas besoin de lui, dans une sorte d'hyper-indépendance, pour ne pas s'exposer à un éventuel refus. Mais en attendant, on a toujours le même besoin qui est caché là derrière. Et puis, il y a une troisième peur qui va naître un peu plus tard, c'est quand l'enfant commence à avoir un peu d'autonomie vers l'âge de 2 ans, où les adultes veulent lui imposer un certain nombre de règles, et l'enfant dit non. Et nous avons tous dit non. Entre 1 an et demi, 2 ans, c'est fort heureux. Certains ne l'ont pas assez dit, ou leur nom n'a pas été assez respecté. Et du coup, ils feront une crise un peu plus tard dans leur vie, parce qu'il faudra bien dire non et se définir soi, plutôt que d'accepter que les autres nous définissent. Et cette incapacité de dire non, elle est là parce qu'on a tellement peur de perdre le lien, on a tellement peur que la relation disparaisse, qu'on préfère s'écraser, on préfère ne pas dire nos besoins, ne pas respecter nos limites et vivre dans une forme de masochisme, comme on appelle cela en psychologie. Après, l'enfant que nous avons été a développé un autre système de défense, c'est la quatrième grande défense que nous avons, il y en a cinq qui ont été décrites, c'est que pour garder le lien, au lieu de s'écraser, il va essayer de contrôler. Alors il peut être très séduisant, très séducteur, beaucoup de charisme, il entraîne les autres, c'est un leader, hein? Mais il peut très vite devenir un dictateur. C'est-à-dire, il va culpabiliser les autres quand ils ne font pas comme ils veulent, quand ils risquent de perdre le contrôle sur le lien et la relation, il va voire les agresser même, hein? Et donc, c'est ce trait de caractère qu'on appelle psychopathique, aujourd'hui on parle beaucoup de perversité narcissique, il vient d'une profonde blessure d'insécurité où on doit toujours contrôler la relation parce qu'on n'est pas sûr d'avoir une vraie valeur pour la mériter et pouvoir y rester. Et ça fait des personnalités parfois pénibles, il y en a beaucoup dans le monde de l'entreprise. Elles sont valorisées aujourd'hui dans notre culture parce qu'on est dans une culture de guerre. Et le psychopathe en nous, c'est un guerrier. Il a beaucoup de courage, hein, plus que le masochiste qui s'écrase, qui ne dit rien. Mais en attendant, il peut devenir vraiment très difficile à vivre. Et ça fait beaucoup de conflits. Et puis, par-dessus tout ça, l'enfant va poser une forme de masque tout lisse, une espèce d'image, une façade, pour faire oublier qu'il y a toutes ces tensions en lui, ces pulsions de domination, cette tendance à s'écraser, ce besoin de se remplir. Et il va cacher derrière un masque très rigide, très lisse. Et là aussi, il faut reconnaître que dans nos sociétés, bah, très souvent, on se présente d'abord avec ce masque un peu idéalisé. On se met beaucoup d'impératifs pour répondre à cette image idéalisée. Et quand j'ai accompagné, du temps où j'avais des consultations en individuel, des gens qui venaient de l'entreprise et qui étaient en burn-out, il était évident que c'était cette part-là de leur personnalité, cette image idéalisée à laquelle ils voulaient coller, du parfait employé, du parfait dirigeant. Et finalement, ils s'imposaient à leur part masochiste d'oublier complètement leurs besoins, de nier leur vérité intérieure. Et finalement, ben, il s'épuisait à la tâche. Hein. Alors, voilà, ça c'est la névrose de l'être humain. Et le drame de la névrose, c'est que chacun de ces comportements recrée ce qui nous faisait peur. Je me déconnecte, ben, j'ai jamais de place dans le monde. Je m'effondre et j'ai toujours besoin que les autres me remplissent. Les autres doivent s'éloigner à la longue parce que je leur prends trop d'énergie. Et donc, je recrée cette forme d'abandon ou de perte de lien. Je me cache, je ne dis pas ma vérité, je ne m'exprime pas, ben les autres ne respecteront jamais mes limites, mais c'est moi qui n'ai pas mis les limites. Je contrôle trop, ben les autres vont essayer d'échapper à mon contrôle et je vais de nouveau être angoissé de voir toujours plus contrôler. Et je cache tout ça derrière une image toute lisse, ben je vis dans une forme d'inauthenticité, un jeu de dupes qui ne me remplit pas, qui ne me rend pas heureux. J'ai l'impression de jouer un rôle et de passer à côté de ma vie. Et donc, toute cette névrose, la bonne nouvelle, c'est que on peut y apporter des ajustements qui créent la posture juste. Et ces ajustements, moi, ça m'a bouleversé quand j'ai compris ça après avoir été formé aux thérapies psychocorporelles, après avoir fait toute une démarche personnelle aussi, et surtout après avoir pratiqué le tai chi et le qigong, qui sont des arts de l'énergie, du vivant dans notre corps. Je me suis rendu compte que chacun des ajustements nous ramenait à la posture de départ de tous ces arts martiaux internes, comme le Qigong par exemple, ou le Tai Chi Chuan. Et le premier ajustement, plutôt que se déconnecter, c'est s'ancrer. Rester en contact avec la réalité, ne pas avoir peur d'être en contact avec les autres, avec la vie, même si elle est crue. La vie n'est pas cruelle, elle est crue, elle est contrastée, elle est abrupte parfois. Premier ajustement, rester là, pas partir dans des rêves et se raconter des histoires. Deuxième ajustement, ne pas s'effondrer, se redresser et apprendre à se remplir de l'intérieur. Mais vraiment le sentir, parce que si on est dans cette posture effondrée, et là le physique a une grande importance, hein, ben le cerveau reptilien enregistre qu'on est toujours démuni. Donc, on va apprendre à se redresser, à respirer, à sentir que notre estomac n'est pas vide. Et ça va nous donner une autre attitude dans l'existence. On va dégager autre chose et notre dynamique relationnelle va totalement être influencée par ça. Troisième ajustement, ben, plutôt que de se fermer, de ne pas dire sa vérité, de râler en soi, parce que vous savez, quand nos besoins ne sont pas respectés, la colère monte en nous. Il n'y a jamais de colère par hasard, elle est toujours reliée à un besoin non respecté. Et donc, ben, cette colère, on la contient, on râle, hein, on se plaint, on souffle. De temps en temps, on envoie des petites piques pour déclencher un conflit, mais on n'ose pas y aller de front et dire vraiment notre vérité. Ben, dans ce masochisme, ben, le seul moyen d'en sortir, c'est au contraire de libérer, de s'affirmer, de dire qui on est sans agressivité, pas contre l'autre, mais pour nous. Et enfin, ben, face à ce besoin de contrôler qu'on peut avoir à certains moments, où on a tendance à se décentrer, à pousser sur le monde, c'est au contraire de revenir dans une posture beaucoup plus centrée, de faire confiance, de ne pas avoir besoin de tout contrôler et d'ouvrir son cœur sur les autres, parce que quand on est un dictateur, les autres n'existent même plus pour nous. Et bon, ici, nous sommes au MEDEF, justement, quand on est un dirigeant, on a ça en nous. Quand on est un enseignant, on a ça en soi, cette capacité à sortir, à aller vers le monde, à pousser quelque part sur le monde, ce n'est pas forcément négatif. Mais si ce n'est pas fait avec le cœur ouvert, on n'est plus un leader, on devient un dictateur. Et des leaders, on en manque aujourd'hui. Des gens qui sont capables de repérer dans leur environnement les talents de chacun pour les fédérer autour d'un projet commun qui sera dans l'intérêt de tous, et pas simplement dans le leur. On en manque singulièrement tant dans la politique que dans l'entreprise. Et puis, enfin, dernier ajustement, ben, au lieu de cacher toute cette névrose qui nous habite et qui habite chacun de nous, hein, on a tous les traits de personnalité, ils se réveillent à certains moments, dans certaines relations, à certains moments de notre vie. Et ça serait une imposture que de nier cela quand on a un peu d'honnêteté avec soi, un peu de conscience éveillée sur soi. Eh bien, quand on accepte de regarder tout ça, c'est avoir l'authenticité de le montrer aux autres. De pas faire croire qu'on est tout lisse, tout parfait, qu'on est un être humain et c'est dans notre humanité que ensemble on pourra s'en sortir. Si on fait croire que nous on est différents, supérieurs, divins, spirituels, désincarnés, ça ne marchera pas.
Oui.
Donc voilà, la justesse, c'est vraiment ce qui nous ramène à la posture de Wuji dans les oui. arts martiaux. C'est la posture où on est avant la manifestation. Tout est là. Hein, c'est les bouddhistes parlent de la vacuité. C'est un vide rempli de tous les possibles encore non manifestés. On est ancré, redressé dans notre autonomie, ouvert, mais centré, et fluide, spontané, en montrant qui nous sommes. Si on arrive à faire ça dans sa vie,
c'est lumineux.
On est vivant et on respecte le vivant autour de nous. Que ce soit dans nos rapports interpersonnels ou dans notre rapport au monde, parce que la psychopathie du monde où l'oralité, elle a besoin de se nourrir tout le temps, on est un puits sans fond, toujours à vouloir plus, plus, plus. Et c'est exactement la même chose qui peut se passer dans nos relations interpersonnelles, c'est notre relation au monde. Elle est motivée par les mêmes névroses.
Merci Thierry. Tu expliques également dans ton livre que notre monde occidental finalement valorise à outrance le mental, au détriment de ce que tu appelles la conscience pure. Mm-hmm. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui tant de névroses et autant de crises aujourd'hui. Comment définis-tu cette pure conscience? Est-ce en fait une sagesse finalement de nos civilisations anciennes que nous aurions finalement perdue?
Alors oui, sûrement. Nous sommes francophones. Hein, la plupart d'entre nous, c'est notre langue natale, j'imagine, ici. Ou en tout cas, nous parlons le français puisque nous sommes en train de discuter en français. Et en français, nous avons un gros, gros handicap, c'est que nous confondons l'esprit et le mental. Mmh. Lorsque j'ai écrit un livre qui s'appelait « La solution intérieure vers une nouvelle médecine du corps et du mental », chez Fayard, mon éditeur m'a dit « Non, 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 il faut absolument mettre du corps et de l'esprit ». Et j'ai dit « Non ». En anglais, on dit « body-mind ». Mind, c'est le mental, c'est nos capacités cognitives qui nous permettent d'analyser, de comparer, de réfléchir, d'élaborer un discours, etc. Mais le mental n'est pas l'esprit. Et en français, on n'a pas cette distinction, c'est un gros handicap, parce qu'on devrait faire la différence entre mind and spirit. L'esprit, dans mon propos en tout cas, c'est la conscience. Mais pas la conscience intellectuelle qui met des mots sur les expériences que nous faisons, c'est encore une capacité cognitive que cette conscience-là. C'est la pure conscience qui est un concept plus spirituel, il parle de l'esprit, du spiritus, de ce souffle vivant en nous. Et cette pure conscience, elle se découvre dans l'expérience méditative. Parce que quand tout d'un coup, la méditation, c'est rien d'autre qu'être présent à ce qui se passe en nous et autour de nous. C'est pas faire le vide en nous, c'est impossible. Notre mental continue à parler, continue à bavarder, continue à ressentir, on a des sensations, des émotions, des pensées. Mais il y a la conscience qui regarde cela. Et plus la conscience regarde sans laisser le mental commencer à bavarder autour de ces phénomènes passagers que sont les pensées, les émotions, les sensations, plus le mental va s'apaiser. Et la méditation, par cette autorégulation du mental, permet l'apaisement du mental. Et du coup, l'éveil de la conscience. Parce que la conscience, cette pure conscience, ne pense pas.
Oui.
Elle constate, c'est tout.
Mmh.
Mais dans la constatation, et les enfants l'ont très fort, parce que leur mental n'est pas encore aussi développé que le nôtre, informé par plein de présupposés, d'a priori, de croyances, etc. Tous des filtres qui nous font voir la réalité d'une façon tronquée. Alors que l'enfant, très souvent, on dit souvent, d'ailleurs, la vérité sort de la bouche des enfants, mais il a une forme de bon sens absolument naturel, parce que c'est sa conscience qui lui montre le réel. Et j'ai pas dit la réalité, parce que la réalité, tu en as une, Réselaine, j'en ai une, Gauthier en a une, Anne-Florence en a une, Agnès en a une autre, Avelina en a encore une autre. On en a chacun une ici de réalité. Déjà parce que certains sont daltoniens, ils ne voient pas les couleurs que de la même façon que les autres. C'est déjà une autre réalité. Et puis on a des croyances, des filtres. Mais le réel, c'est ce qui contient toutes les réalités. Et en fait, j'aime bien dans les séminaires, notamment quand je travaille avec des chefs d'entreprise à l'école, à la posture juge, je vois bien qu'ils me disent, maintenant on va retourner dans la vraie vie. Ah, je dis, mais attendez, la vraie vie, c'est ici aussi. Sauf qu'ici, on a appris à ne pas exclure toutes les formes de vie. Tandis que quand vous retournez dans votre environnement professionnel, vous ne vivez plus qu'une forme de vie, une réalité. Mais le réel, c'est l'ensemble des réalités. Et la conscience, elle embrasse le réel. Elle ne juge pas, n'analyse pas, elle accueille ce qui est. En ce sens-là, on peut dire qu'elle est amour inconditionnel, elle est présence au monde, elle est silence aussi, parce qu'elle ne bavarde pas, elle constate simplement. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, hein, parce que ce sont des concepts qui se vivent plutôt
Qui
que
se
se
vit en
parlent.
soi.
Mais en même temps, tous, on a cette conscience qui peut regarder ce que nous sommes en train de penser, nos répétitions, nos croyances, et notre côté parfois un peu pathétique.
Oui,
Mais j'ai
merci.
l'habitude de dire, je me permets de rajouter ça, que pour que la conscience puisse s'éveiller en nous, il faut que le cœur soit ouvert.
Tout à fait, c'est ce que j'allais
Et le cœur, c'est cette capacité justement à accueillir, sans juger, accueillir ce qui est. Et alors la conscience peut s'ouvrir. Et quand le cœur est ouvert, ben, quand on constate les choses avec cet amour, surgit l'humour. Et je pense que c'est un signe de très bonne santé de pouvoir rire de soi, de pouvoir rire de notre névrose, de voir justement ces scénarios répétés que nous subissons finalement, que nous mettons en place. Et avec cet humour, bien souvent, on s'en sort très bien.
Oui, je vais reprendre aussi, tu me permets, une petite citation que j'ai reprise aussi. Tu dis, le mental pense, il est le résultat d'un ensemble de capacités cognitives dépendant de l'activité du cerveau. La pure conscience ne pense pas, elle constate ce qui est. Elle ne peut s'éveiller que lorsque le mental s'apaise, et cela se produit au cours de l'expérience méditative. Méditer, c'est être pleinement présent au monde et l'accepter tel qu'il est, sans jugement. L'amour inconditionnel se révèle alors en nous, mais accepter ne veut pas dire se résigner. Inspiré par la sagesse de la pure conscience, nos actes sont tournés vers et pour le monde, au service de la vie.
Dans ta question, Réselaine, tu disais que est-ce que c'est justement retrouver une forme de sagesse orientale? Alors,
Oui.
moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du occidental bashing, hein, je n'ai pas envie de taper sur notre civilisation, mais il faut reconnaître que historiquement, nous avons vécu une rupture. C'est-à-dire que j'ai une passion pour l'Égypte ancienne et aussi la civilisation védique, de l'Inde védique, qui était contemporaine, hein, 2000, 3000, 4000 avant Jésus-Christ. Et en fait, dans ces civilisations, comme encore actuellement à la surface de la planète, dans les civilisations dites traditionnelles, l'innovation n'était pas autant importante que la pérennité. Et au lieu de vouloir tout le temps innover, il s'agissait de pérenniser. Et pour
Oui.
pérenniser, eh bien, on avait une tradition qui transmettait des choses. Alors, nous, ça nous paraît un petit peu morose, un peu linéaire, mais en fait, ces civilisations, je pense à celle de l'Égypte, ont duré 3000 ans. Je ne suis pas sûr que la nôtre va durer 3000 ans. Or, la nôtre a commencé vers 500 avant Jésus-Christ, quand la Grèce archaïque a fait place à la Grèce classique. Et la Grèce classique, c'est tout d'un coup, à Athènes, un groupe d'hommes se disent philosophes, ils sont amoureux de la sagesse, ils ne sont pas forcément sages, ils sont amoureux de la sagesse, et intellectuellement, ils essayent de comprendre comment être sages. Mais ils le font intellectuellement. Or, pour être sage, il faut ouvrir son cœur. Et il commence à disserter et à dire, avec notre intelligence, nous pouvons contrôler le monde. Héraclite et tous ces gens-là, on va contrôler le monde. Et pour le contrôler, on va le couper en petits morceaux. Ça s'appelle la pensée réductrice. Toute notre science, c'est-à-dire toute notre connaissance depuis 2000 ans, est basée sur le modèle grec de la pensée réductrice. On coupe en petits morceaux pour comprendre le réel. Mais à force de couper en morceaux, on perd la vue d'ensemble. On peut polluer à Tokyo sans se rendre compte qu'il y aura des répercussions à Paris. Or, c'est absurde. Mais les crises de notre civilisation, elles viennent de cette perte de conscience que tout est relié. C'est notre vision étriquée parce qu'on a trop analysé intellectuellement et on n'a pas embrassé avec ce cœur ouvert, avec cette conscience éveillée. Et donc notre monde est profondément déspiritualisé. L'esprit n'est plus suffisamment éveillé, la conscience n'est plus suffisamment éveillée. Et je ne sais pas si c'est Malraux qui l'a dit parce que c'est très discuté, mais j'adhère totalement à l'idée que notre civilisation et notre humanité n'a d'avenir que si notre 21e siècle devient spirituel, c'est-à-dire où la conscience s'éveille. Si ce n'est pas le cas, on va droit dans le mur et il se rapproche à grande allure.
Oui, on pourra en y revenir peut-être tout à l'heure aussi. Venons-en peut-être maintenant au monde de l'entreprise et à notre responsabilité en tant que chef d'entreprise. Comment concrètement, en tant que dirigeant, je peux mettre en œuvre cette posture juste dans mon quotidien et dans mon entreprise pour me mettre finalement au service de la vie en moi et autour de moi? Est-ce que tu as peut-être des exemples de leaders
Oui.
inspirants
Ah.
qui ouvre la voie et qui opère cette révolution, j'allais dire évolution, mais non, révolution de conscience pour changer leur entreprise et impacter positivement leur société.
Oui. Tu vois, Reslin, je pense que il faut se rappeler que les chefs dans les sociétés traditionnelles, les sociétés qui veillent à pérenniser, ce sont des initiés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont traversé des épreuves, souvent des épreuves de la vie, mais aussi parfois des épreuves codifiées par le rituel de l'initiation. Et à travers l'initiation, ils ont compris ce qu'était la vie en eux, ce qu'était la vie autour d'eux. Ils ont une forme de sagesse qui vient de cette conscience éveillée. Et dans nos sociétés, on ne forme pas les leaders à être dans cette dynamique-là. On les forme d'abord à être des gens performants, des gens compétents, certes, des techniciens, des technocrates parfois. Et c'est dommage parce que je vais vous citer un petit exemple qui va peut-être vous parler, qui est magnifique. C'est un film qui s'appelle Himalaya, que certains ont peut-être vu ici. Un film d'Éric Viali, qui était un photographe pour le magazine Géo. Il a fait ce magnifique film qui raconte l'histoire d'une peuplade qui va vendre le sel dans les vallées du Népal, venant de la montagne, du sel qui est récolté dans la montagne, parce que la mer arrivait jusque-là avant. Et en fait, pour y aller, il faut demander aux astrologues la permission d'y aller. Parce que si les astrologues disent que ce n'est pas le moment, eh bien, le chef dit « Ok, on attend. » Parce qu'on obéit au Dieu, on obéit à la nature, on obéit à des lois qu'on a comprises. Et dans la tribu, là, il y a un jeune qui dit, oh, tout ça, c'est bullshit, tout ça n'existe pas, les dieux, ça n'existe pas, la nature, je suis plus fort qu'elle, moi, je suis jeune, je décide de partir. Et il se révolte contre le vieux chef, il part avec des yaks et son sel, et il se retrouve coincé dans une tempête de neige. Pendant ce temps-là, le vieux chef, il a reçu l'autorisation de partir, et il finit par rejoindre le jeune qui est bloqué. Et le vieux va lui donner une leçon de vie magnifique. Il va lui dire, tu sais, tu as raison, c'est toi qui es destiné à être le chef. Tu as la vigueur, tu es jeune, tu as les compétences, tu as la force. Moi, j'arrive à la fin de mon parcours. Mais je voudrais juste que tu te rappelles que les hommes obéissent aux chefs, mais les chefs doivent obéir aux dieux. Et pour ça, ils doivent comprendre ce que sont les dieux, les forces du vivant, ce qu'est la vie. Et il va se mettre en méditation. Et il va mourir, son âme part. Et le jeune part avec ce message, et j'espère qu'il deviendra un bon chef, hein. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et si je donne cet exemple, c'est simplement pour dire que on ne doit pas espérer être un bon leader en lisant un livre ou en suivant un webinaire ou en prenant de bonnes résolutions qu'on veut imposer à ses administrés. Non, on est un bon leader quand on fait le chemin soi-même. Quand vraiment soi-même, on se pose des questions, quand soi-même, on va au fond de soi et on va voir sa névrose, quand soi-même, on est capable de l'authenticité, de dire, ouais, je reconnais que ce sont mes peurs qui me font agir et je ne le voyais pas, mais maintenant, je peux prendre une toute autre posture. Et c'est l'exemple qui fait la transformation. Parce que un leader inspirant, c'est quelqu'un qui est l'exemple. Et l'exemplarité ne demande pas d'être parfait. L'exemplarité demande d'être humain, d'être pleinement humain, de reconnaître notre humanité pour emmener les autres humains à vivre ensemble cette humanité. Je crois que c'est le seul avenir que nous avons, hein. Et donc voilà, je dirais à tous les leaders, allez vous faire initier. Aller dans des endroits, la vie va nous initier, mais parfois ça prend du temps. Il faut parfois un ou deux divorces, il faut parfois une déconvenue, une faillite, ou il faut une maladie, ou un enfant qui tourne pas très bien, qui se drogue, et tout d'un coup on voit les limites de son propre système. Mais n'attendons pas ça et essayons de remettre dans nos entreprises des endroits où il y a ces possibilités d'être initié. Et ça ne nécessite pas de tourner autour du feu avec une gousse d'ail ou de porter un masque comme on le ferait chez les Dogons. Non, ça nécessite vraiment, oui, de se mettre en cercle, de se regarder entre humains et avoir cette honnêteté d'aller regarder ensemble tout au fond de nous. Si on ne fait pas ça, moi je crois qu'on n'a pas d'avenir.
Oui. Et concrètement, est-ce que tu vois de plus en plus de leaders justement mettre en place peut-être ces moments de méditation, peut-être des pratiques aussi de yoga, de qigong, enfin voilà, toutes
Oui,
ces
mais
pratiques
alors,
finalement qui nous permettent de libérer en quelque part finalement toutes
oui,
ces névroses et de nous réajuster.
mais Rézlin, je vais être peut-être choquant, hein, mais moi je suis cash, hein, je dis comme je sens, comme je pense, et parce qu'on a une vie, bon, soit autant être honnête jusqu'au bout dans sa vie. J'ai très peur que tout ça, ce soit des gadgets. Tu vois, par exemple, il fut un temps où on m'appelait dans des entreprises pour parler de la méditation. Déjà, en parler, c'était il y a 10 ans. Et puis après, pour essayer d'un petit peu l'enseigner. Et je disais au chef d'entreprise, je disais, attendez-vous à ce que ça change ici, parce que si vraiment les personnes méditent, à un moment donné, leur conscience va s'éveiller et elles ne pourront plus accepter de nier leurs besoins. Elles ne pourront plus accepter de se soumettre de la même façon. Elles ne pourront plus accepter certaines choses qui, pour l'instant, fonctionnent parce que c'est névrotique, mais si on quitte la névrose, ça ne marchera plus. Et j'ai vu s'installer dans ces systèmes, même dans le monde hospitalier que je connais bien, j'ai travaillé comme chirurgien pendant 13 ans, et puis souvent je vais dans ce monde hospitalier faire des ateliers, etc. Je vois bien que on fait des journées du bien-être pour les infirmières, on leur apprend à faire quelques postures de yoga, un peu respirer, mais tout de suite après, on retombe. On retombe. C'est comme si c'était une petite soupape de sécurité, mais qui ne change rien en profondeur.
Bien
Et
sûr.
donc, moi, je pense que c'est la structure qui doit changer. C'est pas simplement venir apporter des pansements, c'est changer la structure. Et alors, ce qui me réjouit, parce que je ne suis pas quelqu'un du tout de pessimiste par rapport à tout ça, mais un optimiste réaliste, hein, donc un vrai optimiste, parce que en psychologie, on sait bien que le vrai optimiste, c'est des gens très réalistes. Mais en même temps, je vois à l'école de la posture juste, par exemple. Maintenant, ça fait 10 ans. Au départ, j'avais ouvert ça que pour les soignants, parce que c'était le monde d'où je venais. J'en voyais la souffrance, une souffrance qui est à peine imaginable, hein, parce qu'on parle de la souffrance en entreprise, mais la souffrance à l'hôpital, moi je vois maintenant des équipes où on se tape physiquement, entre médecins et infirmières, ou entre médecins, on se frappe. Tellement la pression est énorme, tellement la bureaucratie noie les soignants dans une activité qui n'est pas la leur, qui n'est pas leur vocation. Donc, et tellement le contrôle et l'hypersécurité vient pourrir tout le système. Enfin, c'est effrayant de voir ça. En attendant, ce que je constate, c'est que malgré que j'avais ouvert l'école essentiellement à des soignants, j'ai eu des demandes de chefs d'entreprise, de responsables des relations humaines, dans des grands groupes. Et j'ai fini par ouvrir la porte pour ces gens-là. D'abord, ça enrichit nos cercles parce que c'est bon pour des chirurgiens de rencontrer des gens qui vivent en dehors d'un hôpital. Et puis c'est bon pour des gens qui vivent en dehors d'un hôpital de rencontrer un chirurgien qui quand même se préoccupe de la santé des gens et qui se rend compte qu'elle ne va pas bien du tout. Donc, toute cette richesse interculturelle, interprofessionnelle, fait qu'aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir ouvert l'école. Mais je vois que de plus en plus, les demandes viennent de ce monde-là. Parce que c'est dans la crise que l'évolution peut se faire. Et la crise, crisis en grec, ça veut dire le choix. Hein? Crisis n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas une catastrophe, la crise. C'est juste un moment de choix. Soit on change les causes qui nous ont amenés dans la crise et on en sort, soit on ne les voit pas, ces causes-là, et on s'y enfonce plus profondément. Personnellement, alors là, je suis un peu pessimiste. Bon, je m'estime très réaliste, mais c'est mon point de vue. Je ne veux pas l'imposer, mais je le partage. J'ai l'impression que pour l'instant, au niveau des décisions, que ce soit au niveau de la communauté européenne, que ce soit au niveau des États, la France et la Belgique, même combat, que ce soit au niveau de malheureusement certaines entreprises, eh bien, on rajoute de la crise à la crise. Parce que les solutions qu'on propose sont structurellement issues de la même manière de penser. Et c'est Einstein qui disait, vous ne pouvez pas ré résoudre un problème en pensant de la même manière que ce qui a créé le problème. C'est impossible. Il faut changer totalement sa façon de penser, les structures dans lesquelles nous évoluons, mais cela n'est possible, et ça c'est le Mahatma Gandhi qui disait, que si vous changez votre structure interne. Et moi, je ne dirais même pas la changer, c'est si vous révélez la structure sage qui est au fond de chaque être humain, parce qu'il n'y a pas une sagesse qui est réservée à certains, elle est au fond de chaque être humain, elle est dans la conscience.
Donc concrètement, si on veut être optimiste et se dire qu'on arrivera à sortir de ces crises en changeant nos structures, en tout cas voilà, en favorisant cet éveil, donc ça passera certainement par les dirigeants qui peuvent ouvrir la voie et du coup inspirer aussi autour d'eux, mais aussi nos dirigeants au niveau des États. Comment est-ce
Oui.
qu'on peut les toucher aussi? C'est ça en fait.
En fait, on m'a souvent dit, quand j'avais 40 ans, maintenant j'en ai 60, j'ai 60 ans cette année, et quand j'avais 40 ans, on m'a proposé d'animer des ateliers au YPO. Je pense que certains doivent savoir ce que c'est, Young President Organization. Et ce que j'en avais compris, c'était un groupe qui venait des États-Unis, qui s'est répandu un peu partout dans le monde, où des chefs d'entreprise se réunissaient en forum, et puis ils se réunissaient régulièrement, une fois par mois, pour parler vrai, pas pour jouer les gros bras en disant mes profits sont d'autant ou les actions ont augmenté d'autant. Non, en parlant vraiment des problèmes, des difficultés qu'on rencontre au quotidien, etc. Et puis, une ou deux fois par an, ils avaient une retraite. Et c'est dans le cadre de ces retraites que je venais animer des groupes où on faisait déjà du travail corporel, de la méditation, mais aussi de la parole sur cette névrose, etc. Et ça m'a beaucoup appris de travailler avec des gens qui n'étaient pas forcément dans la même culture professionnelle que la mienne et qui avaient pourtant le même âge, la quarantaine, un peu brillante, dominante, conquérante. Et en fait, ce que j'ai vu dans ces YPO, c'est peut-être pas partout le cas, mais en Belgique, en tout cas, je l'ai vu. En France aussi, j'en ai vu comme ça. L'idée de changer les sommets des hiérarchies pour que toute la pyramide en bénéficie, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que je sais que structurellement, c'est souvent le sommet qui change en dernier lieu. La base commence à se révolter et la France est le pays qui l'a vécu à travers une révolution très sanglante. Quand la cour de Versailles était tellement déconnectée et protégeait tellement ses petits intérêts sans tenir compte de ce que la base du peuple était en train de vivre, ben ça finit par une révolution. Et Dieu sait si la colère accumulée dans le masochisme du peuple français de l'époque a explosé, mais elle a explosé longtemps et ça a fait la terreur, ça a fait Robespierre, ça a fait... Ouf, hein. Je ne souhaite pas de devoir revivre des moments aussi durs et nous ne sommes pas à l'abri de cela. Parce que la nature humaine est ce qu'elle est. Et quant à un masochisme, et moi je dis à nos dirigeants, faites attention, n'humiliez pas les gens, ils ont une capacité d'accueillir, parce que, enfin de supporter, parce qu'ils ont trop à perdre, alors ils n'osent pas trop se révolter. Mais à un moment donné, quand ils n'auront plus rien à perdre, parce que le prix du pain sera vraiment trop cher, faites attention. Et ce n'est pas une menace, c'est juste une constatation. Et donc, historique. Hein. Et donc, voilà, je suis réjoui quand les sommets de hiérarchie acceptent de faire ce chemin intérieur pour que toute la hiérarchie et l'ensemble du microcosme ou du macrocosme dans lequel on évolue en bénéficient. Mais bon, voilà, il faut aussi... Pas rêver, il y a des phénomènes d'inertie. Hein. Et ce que nous vivons, nous, ici, parce que l'Europe est vieille, L'Europe est vieille, mais comme les vieux, elle devient sage. C'est-à-dire, elle se pose quand même des questions, et les gens sont dans des démarches intérieures de plus en plus. On ne dit plus que c'est pour réserver pour les fous ou pour les sectes, hein, parce que il y a encore 10 ans, c'était pour les fous ou pour les sectes. Donc, l'Europe est vieille, elle va dans cette réflexion profonde. Mais il y a d'autres endroits du monde où le modèle que l'Europe a propagé dans le monde, ce modèle est encore trop jeune pour que les gens acceptent cette introspection. Et quand je vois en Chine, quand je vois même en Inde, qu'ils sont en train de perdre leur âme, mais dans cette course à l'hyperproduction, au profit, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de dire ça, mais dis-moi, je voudrais parler de notre corps qui fonctionne mieux à 40 degrés qu'à 37.
Oui, bien sûr, je t'en prie.
Je peux le faire là?
Oui, allez,
Parce
vas-y, je
que
t'en
on en a parlé ensemble, mais c'est tellement important de comprendre ça. Et c'est tellement relié. C'est pas des belles idées philosophiques ou spirituelles désincarnées. C'est relié à la biologie. À savoir que nous nous rendons pas compte à quel point nous sommes tous très conditionnés. Et je me mets dedans, hein. C'est pas parce que j'ai ce discours que je ne suis pas encore conditionné. Les conditionnements sont profonds. C'est un peu comme des nappes qui sont restées pliées dans l'armoire pendant longtemps. Quand vous déployez la nappe sur la table, les plis restent, hein. Eh bien, moi, je sais que j'ai des plis qui restent bien profonds dans mes conditionnements. Humilité de le constater. Et du coup, nous ne nous rendons pas compte que nous vivons dans un monde en guerre, c'est-à-dire un monde de la performance. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, et ça, je suis tellement heureux de m'être intéressé à l'histoire depuis ma petite enfance, parce que j'avais cette passion pour l'Égypte et les civilisations anciennes, mais on voit bien que les grandes innovations, parce que je ne vais pas dire progrès, les innovations ne sont pas forcément des progrès, mais en termes d'innovation, les grandes innovations, elles se sont produites pendant les guerres. Et il se trouve qu'au XXe siècle, on a eu deux conflits mondiaux qui ont été source d'innovations extraordinaires. Seulement, du coup, sans nous en rendre compte, nous nous sommes habitués à ces innovations. Nous avons fondé une économie qui repose sur la nécessité d'innover pour produire et faire consommer, une économie de croissance indéfinie, pas d'équilibre. Moi, je ne suis pas un adepte de la décroissance, mais au moins d'un équilibre. Là, une montée en flèche d'une croissance indéfinie, ce qui va à l'encontre de la vie. Moi, j'ai 60 ans, je suis en décroissance. Hein. Je ne prends pas d'hormones et je ne fais pas de botox, mais malgré tout, même si je prenais des hormones et prenais du botox, je vais quand même vers mon tombeau. Hein. Ça, il n'y a personne qui y échappera. Donc, il y a une décroissance à un moment donné, mais ça fait partie des équilibres. Et c'est une bonne chose. Mais en attendant, quand on voit comment nous nous comportons, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, nous sommes toujours dans cette dynamique de guerre, c'est-à-dire une dynamique qui doit innover, toujours innover, parce qu'il y a un grand danger. Sauf que le danger a disparu. On n'est plus en guerre. Mais on vit comme si le danger était là et on continue à innover, hein, pour trouver des solutions pour gagner la guerre. Et on fait la guerre, du coup, à qui? Ben, à la nature. On fait la guerre et à nous-mêmes. Quand je vois le nombre de gens qui partent aujourd'hui en burn-out, qui démissionnent de leur travail, mais c'est parce qu'ils font la guerre à eux-mêmes. Et ils s'en rendent même plus compte. Ils s'imposent des choses qui sont juste impossibles à s'imposer pour notre biologie et pour notre cerveau qui ne peut pas fonctionner normalement dans ces conditions-là. Alors, quand on a compris ça et qu'on regarde comment le vivant fonctionne, on se rend compte que le vivant n'est pas dans la recherche de performance. Le vivant est dans la recherche de robustesse pour justement pérenniser la vie. Et je voulais donner l'exemple de notre corps qui, on le sait, fonctionnerait beaucoup mieux si notre température interne était de 40 degrés. Parce que ça serait la température idéale pour que nos cycles enzymatiques, les réactions biologiques dans la cellule, etc., soient optimales. Or, si nous fonctionnions à 40 degrés, nous ne tiendrions, on tiendrait que 3 jours. Donc, la nature ne fonctionne pas à 40 degrés, elle fonctionne à 37. Mais à 37, nous sommes robustes, parce que nous pouvons nous adapter à des écarts, notamment de température, mais aussi de rythme et de stress, etc., que nous ne pourrions pas faire si nous étions en régime performant optimal tout le temps. Or, notre civilisation, elle veut fonctionner à 40 degrés. Elle devrait apprendre à fonctionner à 37 pour être robuste. Mais ça demande de simplifier, de moins vouloir, de moins, et de ne plus faire reposer l'économie sur la performance et sur la production et la consommation, mais faire, comment dire, fonctionner notre économie sur un indice de pérennisation. Mais c'est un changement tellement profond de nos conditionnements psychologiques et philosophiques que, voilà, il en faudra encore quelques dingues comme moi pour parler de ça. Parce que, au moins en parler, pour réinformer un minimum le mental, et quand on n'en peut plus, de se dire, il y a peut-être une autre solution, je pourrais quand même m'y intéresser. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas s'y intéresser mentalement, il faut faire la démarche intérieure.
Et tu disais d'ailleurs, lorsque nous avons préparé ce webinaire, que finalement deux mondes allaient s'opposer pendant cet espace-temps, pendant un espace-temps assez long. Pourrais-tu peut-être nous les décrire? Comment est-ce qu'on peut s'adapter dans cette dualité lorsqu'on est convaincu et qu'on veut agir et que finalement on a cette dualité dans notre société autour de nous?
Oui, et surtout pas se faire la guerre entre ces deux mondes, hein, parce que on pourrait, je vois bien dans le monde dit alternatif, associatif, il y a une sorte de colère contre ce monde qui écrase tout, et je comprends cette colère, mais en même temps, ce n'est pas productif. Il vaudrait mieux faire de la pédagogie, essayer d'enseigner, même si de temps en temps on est raillé ou ridiculisé ou contredit, mais continuer à faire une forme de pédagogie, mais plus qu'une pédagogie intellectuelle, une pédagogie à travers l'attitude. Et donc faire la guerre à des gens, c'est contre-productif puisque c'est pas l'attitude de ce monde dont je parle, qui est un monde inclusif, qui respecte tous les intervenants de la relation. Maintenant, je pense que nous avions discuté de cela lorsqu'on s'était rencontrés pour préparer cette rencontre ici. Moi, j'ai été très, très marqué par un documentaire qui avait été réalisé par Yves Coppens, enfin avec la collaboration d'Yves Coppens, qui est un paléontologue français qui est décédé maintenant. Et le documentaire s'appelait L'Odyssée de l'espèce. C'était sur France 3, je crois. Et très beau documentaire qui, moi, m'a éclairé parce que à l'école, on m'avait appris que Néandertal, il avait précédé Cro-Magnon. Et que Cro-Magnon, ben, c'était mon ancêtre direct qui avait donné l'Homo sapiens que je suis. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Néandertal et Cro-Magnon, à un moment donné, ils ont vécu ensemble, dans les mêmes endroits. On pense même qu'ils aient pu se reproduire, parce que génétiquement, il y a dû avoir des possibilités d'avoir un mélange des chromosomes, des patrimoines génétiques. Mais en attendant, une chose est certaine, c'est qu'il y a eu une longue période de l'histoire de l'humanité où Néandertal a cohabité avec Cro-Magnon. Et je me dis que c'est peut-être ce qui est en train de nous arriver. C'est Cro-Magnon qui l'a emporté, parce qu'il était mieux adapté pour sa survie. Alors aujourd'hui, on a deux types de gens sur cette planète qui pensent que pour s'adapter et mieux survivre, les uns disent il faut devenir un transhumain, c'est-à-dire il faut augmenter les capacités de l'homme avec des puces, avec des machins, et c'est la machine qui fera mieux que nous, et on va même mettre une puce pour être à l'égal de la machine. Enfin, bon, ça c'est les transhumanistes. Évidemment, ça fait fonctionner l'économie, on va fabriquer des robots, on va fabriquer encore plus de technologies, et on va nous implanter cette technologie, et la bourse va continuer à s'enrichir, tout va bien. Personnellement, je pense que c'est une folie, et je crois que le vivant nous ramènera à l'ordre à un moment donné. Parce que quand toute cette technologie qui est dépendante quand même des ondes, des communications, etc., et de l'électricité, quand une tempête solaire un peu puissante fera que pendant un mois, on ne pourra plus communiquer avec nos ordinateurs, on va bien voir comment ça va fonctionner. Hein? Donc, mais les transhumanistes sont convaincus qu'on peut reposer sur nos propres productions pour survivre. Alors qu'il y en a d'autres qui disent au contraire, non, revenons à un véritable humanisme. Allons chercher ce que, en psychologie humaniste, la psychologie humaniste, elle est née après la Seconde Guerre mondiale. En fait, déjà, entre les deux guerres, c'est un philosophe comme Karl Jaspers qui a initié cette vision parce que Nietzsche avait dit dans son Gai Savoir que Dieu était mort. Et donc, si Dieu est mort, eh ben, l'homme était au milieu du jeu et donc il devait prendre en charge son existence. Et Sartre a dit, l'existentialisme est un humanisme, donc c'est l'humanisme, c'est l'être humain qui est responsable de son destin. Mais alors, tout le courant après la guerre de la psychologie humaniste a dit oui, mais alors, si l'être humain doit prendre son destin en main, il faut absolument qu'il aille chercher ses potentiels. Et pas que sa névrose qui l'a emmené jusqu'à ces deux conflits extrêmement meurtriers du XXe siècle, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais plutôt que de juste s'intéresser à la névrose, voyons le potentiel humain. Et c'est Adolf Huxley et tous ces gens-là qui ont parlé du potentiel humain. Et en fait, c'est maintenant dans cet humanisme-là que je crois qu'il y a une possibilité pour notre espèce sur cette planète. C'est aller chercher ce potentiel positif qui est au fond de nous, hein, et pas de courir après l'implantation, les puces, les machins, et qui font tourner une économie, je suis d'accord, mais il faut que l'économie s'intéresse à d'autres valeurs, à d'autres profits, à des profits sur les capacités humaines. Moi, j'aimerais bien être coté en bourse avec mon école. J'aimerais bien, parce qu'au moins, je pourrais développer tout ça, j'aimerais bien que... Mais tout ça n'est pas cotable en bourse, parce qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de choses tangibles à vendre. Mais pourtant, moi, il y a des gens qui m'ont dit « Vous m'avez vendu la prospérité de mon âme. Hein? » Mais on n'est pas là-dedans encore. Peut-être qu'on y sera un jour, peut-être pas, peut-être qu'on n'aura même pas le temps d'y aller, je n'en sais rien. Mais moi, je sais la graine que j'ai envie d'arroser. Et c'est un jour... Vous avez connu Sœur Emmanuelle, peut-être, cette femme qui s'occupait à la fin de sa carrière de nonne de gens dans les bidonvilles du Caire. Et étant très reliée à l'Égypte, j'ai toujours été très intéressée et admirative de l'engagement de cette femme. Et elle disait, mais vous savez qu'il y a... Eh bien, je vais pas faire sa voix un peu au perfet comme ça, mais c'était formidable. Et elle tutoyait tout le monde comme ça, avec un enthousiasme. Et elle disait, vous savez... Dans la vie, ce qui compte, c'est d'arroser la graine qui nous paraît avoir le meilleur germe. Et même si vous ne voyez pas le germe pousser de votre vivant, ce n'est pas grave. Vous aurez arrosé et vous aurez participé au moins à l'espoir que vous aviez.
Mmh.
Eh bien, c'est pour ça que je vous parle comme ça. Après, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça.
Mmh.
Et on verra l'autopsie, comme je disais quand j'étais chirurgien.
Bon, merci, merci beaucoup Thierry. Alors moi j'avais peut-être envie de vous partager une dernière question. N'hésitez pas à nous envoyer quelques questions avant la fin de notre webinaire sur le chat. J'aimerais peut-être vous partager une citation d'un ami qui s'appelle Philippe Gabillet, que tu connais peut-être Thierry. Philippe est professeur de leadership à l'ESCP. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle L'éloge de l'optimisme et qui nous dit « De quoi demain sera-t-il fait ?» Nous l'ignorons, mais dans les temps de grandes mutations qui s'annoncent, il n'y a rien de plus précieux que l'optimisme, cet état d'esprit qui s'offre le luxe aussi d'être un état de conscience. Donc dans ce contexte, je crois qu'il est essentiel de mettre finalement chaque jour notre réalité sous tension positive. Alors comment rester positif et optimiste dans le tumulte de ces crises à répétition? Comment propager cette énergie positive de transformation dont nous avons besoin en nous et dans nos entreprises, Thierry?
Oui. En fait, je parlais là tout à l'heure de l'optimisme. Quand j'avais écrit Le défi positif, qui était un livre dans lequel il y avait 700 références scientifiques qui montraient toutes ces études qu'on fait pour comprendre le potentiel humain, etc. Et en fait, dans ce qu'on a appelé aussi la psychologie positive, hein, les études montrent très clairement que l'optimiste, les vrais optimistes, sont des gens très réalistes. Mais ils ont cette capacité de imaginer avec le constat parfois assez négatif ou assez déplorable d'une situation, ils sont capables d'imaginer des solutions qui peuvent faire évoluer vers une autre situation, bien meilleure. Après, ces solutions ne sont pas toujours mises en route ou les gens n'y adhèrent pas forcément, mais au fond d'eux, ils ont ce que moi j'appelle l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça vient du grec entheos, ce dieu à l'intérieur. Ce que Aristote appelait le daimon, le bon génie, hein, le daimonia. C'est ce bon génie qui nous inspire, c'est cette conscience qui nous montre des chemins. La vie connaît le chemin. Et quand, justement, c'est pour ça que je pense qu'il faut un petit peu s'engager dans son évolution personnelle, il faut engager son corps, il faut bouger ce corps. On sent bien quand c'est fermé, raide et souffrant, et quand c'est délié et joyeux, et vital, vitalisé. Donc, on sent bien tout de suite la différence. Mais il y a des gens, malheureusement, qui ne sentent même plus quand ils sont tendus, puisqu'ils n'ont jamais le contraste pour sentir ce que c'est de ne pas être tendu. Mais quand le corps est de nouveau remis dans ce mouvement, quand la vitalité est de nouveau mise en dynamique, eh bien, l'enthousiasme est là. Ce enthéos, ce yalla de notre sœur Emmanuelle, il est là. Et alors, on peut paraître parfois pour un doux rêveur, mais les vrais optimistes ne sont pas des rêveurs, ce sont des gens très pragmatiques. Ça, les études l'ont montré, hein. Et il y a tas de tests psychologiques qui permettent de distinguer ça. C'est des gens très pragmatiques, moi j'estime être très pragmatiques, mais qui ont bien compris qu'il faudra mettre en place des solutions, et des solutions locales qui pourraient avoir un jour un impact général. Quand j'ai créé l'école de la posture juste, je dis, OK, même s'il y a 10 personnes qui viennent me voir, c'est pas grave. Mais parmi ces 10-là, il y a peut-être le père d'un futur président de la République. Et n'essayons pas d'avoir tout de suite toutes nos parts de marché, n'essayons pas de conquérir le monde d'emblée, mais localement, dans notre communauté, là où nous sommes, ayons cette cohérence, hein, cet engagement profond, et alors le monde peut changer. Et je crois que, on ne sait pas, je suis bien d'accord, on ne sait pas où ça va, mais si il y a un passage auquel on peut s'attendre, c'est le passage de la fragmentation en village. Je crois qu'après avoir été dans la caricature de la mondialisation des idées et des fonctionnements, il va y avoir un morcellement en village. La seule chose dont je pourrais avoir peur, c'est que dans ce morcellement, ce retour à du local, à du concret, pas des théories, parce qu'on peut nous faire des belles théories sur le développement de la planète et tout ça, des belles COP 21, 22, 25, 26, tant que vous en voulez, mais c'est localement que les choses changeront. Et donc, la seule chose que je pourrais redouter là, c'est qu'il y ait des affrontements entre les villages. Si l'être humain n'agit pas d'un autre endroit que sa névrose. S'il agit avec la peur, ça n'ira pas. Mais s'il agit de cet endroit profond, silencieux, cette conscience qui peut accueillir, qui peut même en rire, alors on a une chance. Et c'est probablement parce que tu disais au départ de notre rencontre qu'on était dans un changement de civilisation. Moi, je pense que c'est plus qu'un changement de civilisation. On est dans un changement d'air. On est dans un changement d'ère aussi important que passer du paléolithique au néolithique. Nous sommes encore dans le néolithique, c'est-à-dire nous avons encore une organisation basée sur la propriété d'une parcelle de terrain, d'une transmission d'un patrimoine. On est encore dans le néolithique, ce qui n'était pas du tout le cas au paléolithique. Et pourtant, les êtres humains chassaient le mammouth et ça marchait très bien, hein, pour eux. Mais le paléolithique. Le néolithique a été une révolution. Nous en sommes à la fin, je pense, de cette structure-là. Et il y a quelque chose qui va émerger. Ça va venir organiquement. On ne peut pas le décider. Parce que si on décide trop, on risque pas de prendre les bonnes directions. Il faut laisser émerger et se contenter de faire son travail juste au quotidien. Et on n'aura peut-être pas le résultat de notre vivant, mais au moins on aura participé à une mutation vers une autre ère. Et on verra bien ce que ça donnera. Certains pensent que ça va se vivre sur Mars sous forme implémentée transhumaniste, d'autres pensent que ça va se vivre sur cette Terre, mais avec une espèce qui aurait été cherchée au fond d'elle, quelque chose qui est déjà là, mais qu'elle ne contacte pas à cause de ses peurs. Donc une espèce qui aura maîtrisé sa peur.
Très bien, merci. Je vais prendre une dernière petite question, si tu peux. Si on peut y répondre en quelques secondes, un vrai challenge. Que pensez-vous que pensez-vous que cette justesse puisse être compatible avec le patriarcat?
Et non, non, mais alors encore faut-il bien définir ce que c'est le patriarcat, et je n'ai pas le temps de discourir là-dessus, et puis je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire, mais en tout cas, c'est sûr que la structure pyramidale, avec une dominance plutôt masculine et une transmission comme ça, patrimoniale, je pense que ça ne peut pas marcher. Et on voit bien, j'ai vécu auprès d'aborigènes, j'ai vécu en Afrique, dans des endroits où l'organisation sociale est totalement différente, encore aujourd'hui. Alors, ces gens-là, on est en train de les tuer en déforestant, les empêchant de vivre, etc. Mais en même temps, ils existent encore et ils existent aussi sur des modèles très très anciens où l'enfant est élevé par toute la tribu, où enfin il y a toute une autre façon de penser sa place, de penser son rôle et de penser l'ensemble. Et donc voilà, je crois que on y sera forcé d'une manière ou d'une autre, ou pas. Enfin, je pense que la proposition nous est faite. La nature nous propose de revenir dans son rang, de ne pas s'en exclure, de ne pas croire qu'on est en dehors et au-dessus d'elle, de reprendre notre place au milieu d'elle, et puis d'avoir cette humilité. C'est quand même intéressant de se rendre compte que humain, ça vient de humus, la terre. Hein? Mais c'est ce qui a donné humilité. Je pense qu'on n'est pas vraiment humain, pleinement humain, tant qu'on n'est pas vraiment humble. Et pour ça, vous voyez, il y a un geste magnifique qu'on pourrait tous faire de temps en temps pour le sentir dans notre corps, c'est de se prosterner. Alors, il y a une religion encore aujourd'hui qui se prosterne 5 fois par jour. Évidemment, parfois, les gens ne savent même plus ce qu'ils font, ils le font par atavisme, par habitude. Mais quand c'est vécu, de mettre son mental sur la terre, plus bas que son cœur, de laisser le cœur diriger, pas le mental. C'est tout le geste de la prosternation qui est l'acte d'humilité absolue, du retour à ce que nous sommes vraiment. Donc, moi, je me prosterne très régulièrement.
Merci, merci
J'en
beaucoup,
ai
Gauthier.
aucune religion, mais je me prosterne très régulièrement.
Merci. Alors, dernier petit partage, peut-être avant de vous quitter, je souhaitais, avec Thierry, vous proposer une mise en pratique de la posture juste dès ce soir avec 5 minutes de méditation guidée par Thierry. Merci Thierry de nous guider sur ce moment. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi explorer donc un programme complet de méditation sur le site de Thierry, La Posture Juste. Vous avez également ce prodigieux ouvrage de Thierry, La Posture Juste. Voilà, si vous le souhaitez, je suis également disponible pour vous, pour vos équipes, votre management à travers mon expertise de coaching, les tables rondes, des conférences inspirantes comme nous l'avons vécu ce soir. Nous pouvons aussi avec Thierry vous proposer voilà, des ateliers pratiques autour de la posture juste dans vos organisations. Alors n'hésitez pas voilà, à nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, je vous laisse d'ailleurs dans le chat nos coordonnées. Voilà, donc j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce moment ensemble. N'hésitez pas à relayer ces messages lumineux sur vos réseaux sociaux, dans vos organisations. Cher Thierry, je te remercie à nouveau pour ce moment prodigieux ensemble. Merci à l'Académie du MEDEF. Merci à Gauthier, Bernard et Céline Gentilly d'avoir accepté notre invitation ce soir.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.